muet pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Mélancolique à l'été bien terminé, car on sent à présent que nous sommes en automne. C'est vrai que en plus les nuits sont de plus en plus précoces et il faut savoir que durant ce mois les jours diminuent d'une heure 47 minutes. 1h47 en moins de jours. Octobre, un mois connu dans la sorcellerie, paraît-il. En effet, les rites sorciers ont toujours lieu lors des mois d'octobre, notamment les dates impaires. Et puis, octobre est un mois qui a revêtu ou qui revêt beaucoup de couleurs. Par exemple, aujourd'hui, les couleurs sont tout simplement magnifiques. Alors je ne vous parle pas d'Octobre Noir, la marque de vêtements, ni d'Octobre Rouge, le roman ou le film, mais plutôt, car c'est dans l'air du temps, d'Octobre Rose, destiné à sensibiliser au dépistage des collectes de au dépistage du cancer du sein. Alors il faut savoir que durant ce mois, des initiatives comme des courses à pied, des ventes aux enchères ou des collectes de soutien-gorge sont organisées, le but étant de rassembler des associations et des professionnels de santé autour de l'information sur le dépistage du cancer du sein. Bien qu'une étude scientifique relance la controverse sur la mammographie systématique. Mais encore une fois, bon, on nage un petit peu entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est bon de faire ou mauvais de ne pas faire, ce qui est mauvais de faire ou bon de ne pas faire. Bon, de toute façon, le rose, c'est aussi la couleur de cette chambre qui inspire Gilbert Lafaye.
Je t'écris d'une chambre rose sur ce papier d'un autre temps. Ici je lis, je me repose. Comment te dire que je t'attends? Je vais marcher le long du port, rêver de criques et de voiliers, des caravelles aux lettres d'or, de mes vieux livres d'écolier. Le ciel est bleu, la mer est grise, la lumière change à chaque instant. Il y a des îles indécises et des pays de goélands. L'été s'en va, les rues se vident, le grand hôtel vient de fermer. Sur la jetée, presque timide, quelques lampions restent allumés. Ça sent la gaufre et la cannelle, les berlingots devant maman. Un orgue joue des ritournelles, cerisier rose et pommier blanc. Au coin d'une rue, on trouve encore des cartes postales 1900. Bon baiser de la mer du Nord, de cette plage, il y a 100 ans. Qui étaient donc ces demoiselles qui se baignaient tout habillées? Ces dames en robe de dentelle à la terrasse d'un café. Et ces enfants devant l'école qui posaient là pour la photo ont-ils connu des années folles, vécu la guerre, sauvé leur peau? Je t'écris d'une chambre rose, comment te dire que je t'attends? Et je rêvais toutes ces choses, où regarder passer le temps.
C'était bien sûr Gilbert Lafaye. Alors dans l'air du temps aujourd'hui, nous retrouverons Jean-Louis Ouattet, président de l'Extrême Nature. Et même si la rubrique est intitulée « Sale temps sur la planète », eh bien Jean-Louis ne nous donnera pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui. En effet, on ne mettra pas non plus l'accent sur un problème environnemental, mais il nous invitera à vivre mieux et à participer au marché du mieux vivre qui se tiendra le dimanche 14 octobre à l'Extrême. Chronique ensuite du jardinage bio avec Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Et on continuera dans le bio, voyez-vous, aujourd'hui avec cette invitation à la conférence donnée à la salle Olof Palme de Béthune. Conférence au titre évocateur « Et si on arrêtait de s'empoisonner ?» Ah, une très bonne question. Et on en parlera avec notamment le président de Béthune Nature, c'est-à-dire Robert Trouvillier. Et puis c'est la Saint-Pélagie aujourd'hui, mais c'est aussi le jour de Christophe Colomb. Le jour de Christophe Colomb est une fête nationale aux États-Unis. Il est aussi célébré par les Espagnols, c'est la moindre des choses. Et dans les pays d'Amérique latine, même si la colonisation espagnole y est aujourd'hui sujet de nombreux débats. Un génie, Christophe Colomb. Pourquoi pas?
J'aurais voulu être un génie, nommé Alexandre le Grand, et refouler la barbarie, unir l'Orient à l'Occident. Mais voilà, je ne suis que moi, un pion de plus sur l'échiquier. Et ce qu'on demande aux soldats, c'est de bien faire son métier. J'aurais voulu être Moïse, parlant à Dieu dans les éclairs, conduire un peuple en terre promise après 40 ans de désert. J'aurais voulu combattre l'ange comme Jacob une nuit entière. Rien me blesse et me dérange, un simple rhume jette à terre. J'aurais voulu être un génie, embarqué sur la nef des fous, avec Christophe Colomb maudit, avoir raison malgré tout. J'aurais voulu découvrir Troie et les tombeaux des pharaons. J'aurais voulu ouvrir les bras sur le mine du roi Salomon. J'aurais voulu être Shakespeare, philosopher avec Hamlet, sur le sort des princes des empires, à faire craquer ma pauvre tête. Seul avec ma boîte ukrainienne, je méditais, je réfléchis à la vitesse qui est la mienne, sans pouvoir trouver la sortie. J'aurais voulu être un génie devant le spectacle du monde. J'aurais voulu être Vinci, laisser derrière moi la Joconde. J'aurais voulu bâtir Versailles, je voyais plus grand que mes yeux. J'habite tout seul dans la grisaille, un petit carré de banlieue. J'aurais voulu être un génie, flambeau de la Révolution, avec le peuple de Paris, être porté au Panthéon. Mais il n'y a rien à la mairie pour que l'histoire garde mon nom, qu'un registre d'état civil, que les mythes un jour mangeront. J'aurais voulu être Mozart, entre Salzbourg et l'Italie, écrire sous les doigts du hasard ma petite musique de nuit. Et voyez-vous, ce qui console, c'est que les machines IBM, quand mes ambitions dégringolent, ne peuvent pas refaire la cinquième. J'aurais voulu être un génie et faire de l'or avec du plomb, ou un élixir de longue vie pour assouvir toutes mes passions. J'aurais voulu être Rimbaud, pratiquant l'alchimie du verbe, mariant les couleurs et les mots dans une honnêteté superbe. J'aurais voulu être un génie, du genre Einstein ou Galilée. Le temps passe, je vieillis, voilà ma relativité. J'aurais voulu être Chaplin, un regard que rien ne remplace. J'aurais voulu qu'on me dessine mon portrait laser dans l'espace. J'aurais voulu être un génie, voler l'échelle qui monte aux cieux, pousser la porte de l'infini, entrevoir le banquet des dieux. Mais quand je sors mes photos de l'album, je mets ma main devant les yeux et je demande pardon aux hommes d'avoir vécu comme l'un d'entre eux.
Georges Chelon sur Radio Plus. Alors, notre petite enquête dans l'air du temps, un sondage montre que 90% d'entre nous sommes favorables à une dictée quotidienne à l'école primaire. Pour 61%, c'est l'idéal pour améliorer l'orthographe. Et pour 29%, cela ne peut pas faire de mal. En effet, il est vrai que certains en auraient bien besoin, n'est-ce pas, monsieur Morel? Votre Paolo, par exemple.
Quand je l'ai croisé un jour près d'un aéroport, je mens pas, j'ai bien cru qu'elle m'avait jeté un ressort. Je m'avais exclamé au bord de l'infractus, c'est Vénus de Millau avec deux bras en plus. Tellement elle était belle avec plein de charisme et des doigts aussi longs que celui-là d'un pianiste. J'y ai dit Virginie, elle s'appelle Virginie, oh, mon amour est pour vous totalement infini. Je lui ai dit aussi, quand on s'est rencontrés, faut qu'on se revoie sans faute. Elle a dit, ça m'étonnerait, elle est professeure de français, tout ce qu'il y a de plus diplômé. Le soir avant de faire l'amour, elle me fait faire une dictée. Jamais je n'aurais eu l'idée, le soir avant de faire l'amour, de mettre un S au mot toujours, de mettre un S au mot toujours. Au bout de quelques mois qu'on s'était accouplés, on s'est mis à rechercher un petit lit douillet. On s'est dit que comme ça, on économiserait, vu que ça nous éviterait de payer deux loyers. Quand elle en trouvait un dans la rue Vaugirard, j'ai dit je préférerais plus le quartier Saint-Lazare. C'est comme ça qu'on finit, on jetit nos dévolus sur un petit rez-de-chaussée au 6e rue Balu. Tous les matins t'y pars, moi je reste couché. Je n'ai pas trop le cœur à aimer travailler. Elle est professeure de français, tout ce qu'il y a de plus diplômé. Le soir avant de faire l'amour, elle me fait faire une dictée. Jamais je n'aurais eu l'idée, le soir avant de faire l'amour, de mettre un S au mot toujours, de mettre un S au mot toujours.
Les après-midi, moi je file au balto. Avec deux, trois poteaux, on va faire un tarot. Elle aime le travail, elle aime l'instruction. On est complémentaires, je préfère la distraction. N'empêche que, mine de rien, ça fait des décennies, et très exactement presque 3 ans et demi, que je suis son Polo, qu'elle est ma Virginie. Je sais bien qu'il y a un E au bout de Virginie, vu que c'est elle qui me l'a dit, c'est un nom féminin. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est féminin.
Elle est professeure de français, tout ce qu'il y a de plus diplômé. Le soir avant de faire l'amour, elle me fait faire une dictée. Jamais je n'aurais eu l'idée, le soir avant de faire l'amour, de mettre un S au mot toujours, de mettre un S au mot toujours.
Il n'est pas dit qu'un jour ils nous viennent pas l'idée.
de nous dire à propos si on ferait un bébé. Vu que je suis à la maison, je pourrais le garder le matin quand je finis ma grasse matinée. Pourvu qu'elle est présente à l'heure de l'apéro, parce qu'à midi pétante, moi je file au balto. Enfin on a tout le temps encore de réfléchir. Je veux pas la brusquer, inquiéter son avenir. Jamais je la quitterai, car elle m'a tout appris. Le bonheur et l'amour, l'orthographe et la vie. Elle est professeure de français, tout ce qu'il y a de plus diplômé. Le soir avant de faire l'amour, elle me fait faire une dictée. Jamais, jamais je la quitterai. Le soir avant de faire l'amour, j'ai mis un S au mot jamais. J'ai mis un S au mot jamais.
François Morel sur Radio Plus. Et allez, tout de suite, on retrouve pour notre rubrique Sale temps sur la planète, Jean-Louis Ouatté, président de l'Extrême Nature.
Sale temps sur la planète. Oh, le drôle, de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, même ceux qui ne sont pas très doués pour l'orthographe peuvent écrire d'ores et déjà sur leur agenda ou sur leur calendrier, en face du dimanche 14 octobre, marché du mieux vivre à l'Extrême, et ce sera déjà la 29e édition.
Et oui, depuis octobre 1990, donc date de la première édition, le marché du mieux vivre, c'est bien développé, mais en gardant toujours son identité. Hein, ça se passe toujours en salle. Et puis l'entrée est toujours gratuite. Hein, ça se fait rare, les manifestations avec des entrées gratuites. Alors c'est devenu un rendez-vous traditionnel hein, pour beaucoup de nos visiteurs, pour qui apprécient l'ambiance, qui sont sensibles aux messages qu'on essaye de faire passer. Et des messages qui étaient considérés comme utopiques hier, mais qui sont devenus une réalité urgente aujourd'hui.
Tout à fait. Et puis alors, ce qui caractérise cette manifestation, eh bien, c'est la diversité des exposants et leur nombre. Combien prévu cette année, Jean-Louis et tous ont bien évidemment ce même souci de nous faire mieux vivre au naturel, bien sûr.
Alors oui, cette année, on a 45 exposants donc qui ont été sélectionnés. Hein, donc bien entendu, il y a un choix qui est fait parce que il faut respecter l'esprit du marché et donc on est très vigilant. Donc voilà, 45 cette année.
C'est quand même pas mal. Alors il y a justement quelques nouveaux venus ?
Ben oui, on essaye toujours de se renouveler. Cette année, il y a 12 nouveaux exposants, ce qui fait plus de 25%, ce qui est quand même bien. Quelques exemples, hein, je vais pas tous les donner, mais on a deux nouveaux maraîchers bio, dont le jardin de Notre-Boom de Bayeul, avec en particulier une production de plantes aromatiques et médicinales, des petits fruits pour la transformation donc en tisane, en pesto, aromatisé, huile et vinaigre aromatisé. Donc tout ce qu'il y a d'original et tout ça c'est bio. Et puis, notre exemple, la communauté de communes à laquelle on appartient, Flandre-Lys, va présenter son opération de création du service de location longue durée de vélos à assistance électrique, donc vélo électrique, par la communauté de communes CCFL. Et puis, un fabricant de jeux traditionnels en bois. Et puis, c'est un local, puisqu'il habite Vieille-Chapelle, commune voisine de l'Extrême. Donc voilà quelques exemples de nouveaux exposants.
Alors, bien vivre, c'est d'abord bien manger. Je suppose que le bon sera privilégié avec ce qu'on pourrait qualifier de bonne bouffe, non seulement avec certains de ses exposants, mais aussi avec ce repas bio servi aux amateurs à l'heure du midi.
Alors, bien vivre aujourd'hui, c'est d'abord limiter ses impacts sur l'environnement. C'est respecter les équilibres naturels et on va montrer que le mieux et le bon peuvent aller de pair. Donc, le bon, les produits bio et les produits, tous les exposants ne sont pas bio. Hein, on aura des produits régionaux, mais des produits traditionnels, comme par exemple des gaufres artisanales, comme aussi le dernier nougatier artisanal régional qui sera présent au marché du mieux vivre. Et puis le midi, ben, on a le repas bio, hein, qui est l'occasion de montrer que, ben, avec des produits locaux de saison, on peut faire un excellent repas, et ce, à un prix très abordable. Donc c'est aussi une façon de montrer au public que le bio n'est pas réservé à une élite, hein, qu'il est abordable, et que donc il faut absolument essayer de changer ses pratiques et de passer au bio, puisque on sait très bien que les produits phytosanitaires, ben, c'est dangereux pour la santé.
Tout à fait. Et donc, on le sait maintenant, toujours aussi bon, mais toujours aussi beau, et surtout bio. Et bio, c'est une condition sine qua non, bien sûr, pour pouvoir exposer ou vendre chez vous dans ce marché du mieux vivre.
Bah, tout n'a pas le label bio, hein, il faut être... mais on essaye de privilégier des productions artisanales locales, parce que les circuits courts de distribution, c'est aussi un point important. Bon, il n'y a pas que le circuit court de distribution, puisqu'on peut avoir des circuits courts avec des produits hyper traités, mais donc on est vigilant pour avoir des choses de qualité, des choses régionales, bon, qui sont si possible bio, s'ils ne le sont pas, on est vigilant pour avoir ces produits de qualité.
Et justement, en parlant bio, eh bien, il y aura possibilité de s'informer sur la façon de garder un intérieur propre sans produits toxiques néfastes à notre santé, car c'est cela aussi mieux vivre.
Ah bah effectivement, c'est un sujet important, car beaucoup de produits d'entretien qui sont vendus dans le commerce sont porteurs de perturbateurs endocriniens ou responsables d'allergies tenaces, ou les deux même. On a d'ailleurs fait une soirée sur le sujet avec Frédéric Den, qui est animateur santé à la Maison de la Nature et de l'Environnement de Dunkerque, qui nous a montré tout ce qu'il fallait pas faire et tout ce qu'il fallait choisir. Donc il y aura effectivement plusieurs exposants sur ce thème, un pour l'entretien de la maison et d'autres pour les produits de soins et de toilettes. C'est important d'avoir des produits sains et des produits qui n'attaquent pas la peau et qui ne sont pas déclarés comme cancérigènes.
Tout à fait. Et bon, je précise que ce marché du mieux vivre est à faire absolument en famille, car bien sûr les enfants ne sont jamais oubliés.
Ah non, on n'oublie pas les enfants. Bah, j'ai parlé des jeux en bois. Une bonne partie pour les enfants, mais aussi il y aura cette année un nouveau stand, puisque la ruche des abeilles, c'est un nouvel exposant avec des outils ludo-éducatifs sur le monde des abeilles. Donc il y aura des animations régulièrement dans la journée pour les enfants.
Et tout à fait. Et justement, le marché du mieux vivre est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable autour des thèmes de la biodiversité, cher à l'association L'Extrême Nature, votre association. Et d'ailleurs, pouvez-vous nous donner le thème de cette année, Jean-Louis ?
Bah, le thème de cette année, c'est « Écrivons ensemble l'Atlas de la biodiversité communale ». C'est en référence à notre action que nous menons à l'Extrême d'Atlas de biodiversité communale, mais ça concerne tout le monde, car il s'agit d'inviter les habitants à raconter leurs observations. La biodiversité au quotidien, c'est vraiment fondamental. Alors, ça n'est pas qu'une affaire de spécialistes, hein, c'est aussi l'affaire de chacun, d'observer et puis de faire remonter des informations. Et les problèmes de biodiversité sont à notre porte. C'est pas des problèmes de pays exotiques, elles sont à notre porte, hein, aussi bien pour la disparition d'espèces. Ben, je pense par exemple aux moineaux, tout simplement, basique. Des moineaux, on en voit de moins en moins. Et c'est important que les habitants nous fassent remonter leurs observations, des photos. C'est aussi bon, un autre exemple dont on a peu parlé cet été, mais aussi un virus qui a frappé les merles et les grives. Hein, on a trouvé pas mal de merles et de grives morts dans les jardins. Bah, en fait, tout ça, c'est un virus qui les a attaqués. Et donc ça, c'est important de faire remonter les observations, que les habitants nous fassent remonter ces observations pour qu'on puisse évaluer justement les problèmes. Mais c'est aussi problème de biodiversité, c'est aussi l'apparition d'espèces invasives. Et je pense particulier au frelon asiatique. On aura un stand spécifique sur le frelon asiatique avec Michel et Jean-Pierre Duterrier, qui nous présenteront eh bien comment reconnaître le frelon asiatique, comment le différencier du frelon européen, quelles mesures prendre quand on rencontre un frelon asiatique, faire attention avec les nids. Donc ça, ce sont des choses, des problèmes de biodiversité au quotidien, et donc on invite justement la population à venir justement s'informer sur ces sujets. Et puis un sujet important, il faut savoir qu'au 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires pour les jardiniers seront interdits à la vente et interdits d'utilisation. Et donc ça va être aussi l'occasion de montrer que, eh bien, on peut lutter contre des espèces invasives avec des mesures de biocontrôle. Donc ce marché va revêtir une importance particulière sur ces thèmes.
Et puis Jean-Louis, dans plusieurs de nos émissions, vous nous avez rappelé qu'il fallait protéger absolument les pollinisateurs et les abeilles sauvages. Et votre association a d'ailleurs beaucoup œuvré dans ce sens cette année. Alors y aura-t-il encore cette année un atelier construction de nichoirs pour les abeilles sauvages ?
Alors tout à fait, on aura un atelier de construction de nichoirs pour d'hôtels, plus généralement d'hôtels à insectes, mais bien sûr aussi pour les abeilles sauvages. Donc c'est un sujet important et qu'on continue à travailler de manière intensive.
Tout à fait. Voilà donc, 29e marché du mieux vivre ce dimanche à l'Étrême, organisé par votre association L'Étrême Nature, dont le but est, je rappelle, informer et sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Et donc ça se passera à l'espace culturel Jean de la Fontaine, et c'est de 10h à 18h, et l'entrée est gratuite, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, et on insiste sur ce fait que l'entrée soit gratuite.
Tout à fait.
Donc, espace culturel Jean de la Fontaine, mais c'est bien indiqué, à l'Étrême ce dimanche.
Et puis pour le repas bio, il est prudent de réserver. On aura deux services, un à 12h30 et l'autre à 13h15. Et donc, il faut absolument réserver parce qu'on est toujours, on doit refuser du monde chaque année.
Jean-Louis, merci. Et puis, je vais vous dire bon courage dans la préparation de cette manifestation. Mais c'est toujours... Et c'est toujours de plus en plus de visiteurs, et je pense que pour vous, la récompense est là.
Tout à fait, tout à fait.
Merci Jean-Louis. Très bonne semaine à vous.
Bonne semaine et à bientôt.
À bientôt.
Je suis comme la planète. Je réchauffe, mais ça me laisse froid. Je ne gris plus de cigarettes. Vivres-tu aussi, c'est comme ça. Oui, je n'ai plus de repères. Je ne touche plus terre. Je suis comme la planète. Ça ne tourne pas rond pour moi. Je suis comme la planète. Les saisons du cœur ont froid. Oui, c'est dur de trouver la clé pour rêver. Nous sommes comme la planète.
vrai que, comme le dit Eddie Mitchell, c'est vrai que quelquefois on marche sur la tête. Bon, je sais que le temps n'est pas au top actuellement, bien que il fasse très très beau aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il commence à faire frais surtout le matin, mais l'automne est bien installé. Peut-être, on pourrait peut-être profiter de ces rayons de soleil pour donner un bon coup, faire un bon coup de ménage au jardin. C'est certainement ce que va nous dire Bertrand Trinel.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand, automne en fleurs, dit le dicton, hiver plein de rigueur. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors il est vrai que nous venons de profiter d'un bel été indien avec le soleil souvent présent. Il y a encore beaucoup de fleurs qui sont encore bien présentes, elles aussi dans nos jardins. Alors personnellement, j'ai encore des roses qui éclosent. Alors est-ce que cela laisse présager un hiver rigoureux? Et je pense que vous me direz peut-être que c'est tant mieux si c'est le cas.
Oui, effectivement, si on a un hiver rigoureux, c'est vraiment très bien pour tout, pour nos fruitiers, pour les plantes, pour beaucoup de choses. Bon, maintenant, est-ce qu'on aura un hiver rigoureux? On n'en sait rien encore maintenant. Il faudra prendre le temps comme il vient, puis on verra.
Tout à fait. Alors, Bertrand, en attendant, il nous reste peut-être encore quelques beaux jours, comme par exemple aujourd'hui. Justement, peut-on déjà penser à protéger nos arbres et surtout comment faire pour éviter les herbes indésirables à leurs pieds? Et si vous, justement, à ce propos, si vous nous parliez de ce qu'on appelle le BRF.
Alors d'accord, donc alors on va commencer par la première question. Est-ce qu'on peut mettre protéger les, enlever les arbres indésirables à leurs pieds pour plus en avoir? On peut mettre un mulch au pied des arbres, mais avant de mettre un mulch, un paillis, il faut bien sûr avoir désherbé auparavant. On met jamais de paillis sur un terrain qui n'est pas propre, hein. Voilà. Donc pour le BRF, c'est le bois ramé à fragmenté, et il y a beaucoup de personnes qui confondent le broyat et le BRF. Le broyat sont des copeaux de bois souvent très secs. Et souvent, les gens disent, j'ai mis des broyats dans mon jardin, c'est du BRF. Eh bien, non, c'est pas ça du BRF. Quand on met du bois sec dans le jardin, des copeaux de bois sec, pour se décomposer, ils vont avoir besoin de l'azote du sol. Hein, ils ont besoin d'énormément d'azote, donc ils vont le puiser dans le sol, donc vous allez appauvrir votre sol. Donc, si vous mettez des broyats secs, il faut à tout prix rajouter un engrais organique bio riche en azote, ou mélanger de la tonte de pelouse fraîche au broyat, qui va amener l'azote à ce broyat. Le BRF est totalement différent. On va couper des branches bien vivantes, avec leurs feuilles si possible. On utilise des branches jusqu'à peu, environ 6 cm de diamètre. Et tout de suite après la taille, ou dans la journée, on va les broyer. Donc on broie tout ça dans le broyeur. Et dans la journée également, ou le lendemain, mais pas plus tard, on va les étaler sur le terrain et on va les incorporer sur les 5 premiers centimètres en griffant le sol. Du coup, ce qui va se produire, ça va produire que des champignons vont se développer. Il va y avoir une mycorhisation qui va se mettre en place. Et la mycorhisation, c'est un peu une symbiose entre les racines des plantes et puis le champignon. Les mycorhizes se soudent aux racines, vont chercher très très loin, beaucoup plus loin que peuvent le faire les racines, tous les nutriments nécessaires à la plante, les ramènent aux racines, donc dans leur plante. Et en contrepartie, la plante, quand elle produit sa sève élaborée, va nourrir le champignon. Donc c'est vraiment une symbiose entre deux organismes. Et ça marche très très bien. C'est vrai, c'est quelque chose de bien. Savoir que le BRF, on n'en met pas non plus tous les ans. On en met une fois, puis on attend 3-4 ans avant d'en remettre. Et c'est quelque chose de très bien pour le jardinage.
Mais alors, ça n'a rien à voir, on précise bien, Bertrand, avec l'écorce que l'on trouve dans les grandes surfaces.
Ah non, ça n'a rien à voir. Alors, justement, l'écorce qu'on trouve dans les grandes surfaces, par exemple, les écorces de pin, on ne met jamais d'écorce de pin au pied des rosiers. J'ai vu souvent mettre ça. Les écorces de pin au pied des rosiers, c'est très, très acide. Donc ça fait mourir les rosiers en 4, 5, 6 ans, ils dépérissent énormément. Par contre, les écorces de pin, ça va bien sur les plantes, par exemple pour les rhododendrons, pour les azalées, pour tous ces plantes qui ont besoin d'acide.
D'accord.
Mais ça n'a rien à voir avec le BRF. Hein,
d'accord. Alors, avec l'automne, c'est vrai qu'on a envie de boire des infusions. Je ne pense pas, Bertrand, que nos auditeurs connaissent la menthe en arbre, mais vous me dites que ça n'a rien à voir avec la menthe avec laquelle on fait des incisions, des infusions. Alors, cette menthe s'appelle l'Elso... Vous allez m'aider.
Elsocia Toutoni.
Voilà. Pas facile comme nom, hein. Pas facile.
Mais...
Il paraît que sa floraison est très jolie à cette époque de l'année, et en plus, donc, et forcément dans un jardin actuellement avec les couleurs, ça doit être magnifique.
Oui, alors effectivement, la menthe un arbre, hein, donc je ne vais pas redire le nom, si quand même, hein, Eglosia stotonia, c'est un joli arbuste, hein, qui peut atteindre 1,50 m de hauteur. Donc c'est, quand on froisse le feuillage, c'est vraiment une agréable odeur de menthe, hein, qui se dégage, d'où son nom, menthe en arbre. Alors, ça forme des très jolies fleurs en épis, hein, des épis très étroits, très denses, en couleurs, de couleur bleue, parfois c'est de couleur blanche, parfois mauve, hein, ça dépend les variétés. Et ça pousse très bien à mi-ombre au soleil. Ça n'apprécie pas du tout les sols gorgés d'eau en hiver, il faut le savoir, il faut pas un sol trop gorgé d'eau. Ça ne rajeune pas effectivement comme la menthe, puisque ce n'est pas de la menthe, et c'est absolument pas envahissant. Parce qu'il y a des gens, quoi, dès qu'on parle de menthe, ils disent « Oh, pas dans mon jardin ». Non, là, c'est vraiment un arbuste très intéressant pour les jardins, surtout pour les couleurs automnales. Bon, maintenant, on peut évidemment pas faire de tisane avec cet arbuste. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça.
D'accord. Alors, bon,
Bertrand... Une chose encore pour cet arbuste, il faut le mettre dans un endroit protégé, parce que la rusticité n'est pas quand même totale. Hein.
Totale, d'accord.
Au-delà de moins 7, moins 10, voilà.
Ça gère.
Voilà.
Alors, ben écoute, on va peut-être passer aux choses sérieuses. Je disais tout à l'heure qu'il est peut-être le moment est peut-être venu de faire un bon ménage dans le jardin. Et oui, on sait que l'automne, ça n'est pas de tout repos pour le jardinier, n'est-ce pas ?
Non, tout à fait. Alors, c'est forcément le moment ici pour commencer le nettoyage du jardin d'ornement. Hein. On peut retracer les bordures des parterres, puisque les bordures sont souvent elles sont gagnées par les herbes. Hein. On peut commencer à enlever les tiges fanées des vivaces. On peut désherber les parterres si ça a lieu, on aère le sol à la grelinette, on va griffer sa surface, hein, donc on prépare tous les parterres du jardin d'agrément. Au potager, on sait que c'est bientôt la fin des légumes, hein. Les parcelles vont se libérer, donc on va travailler le sol à la tibèche pour l'aérer. On peut planter en ce moment de l'ail blanc, de l'ail violet ou encore de l'ail éléphant, qui est un ail qui est vraiment énorme. Hein. On peut terminer de cueillir toutes les cucurbitacées avant les gelées, parce que ça supporte absolument pas le gel. On peut effectivement également buter les artichauts. Donc on resserre les feuilles des artichauts, on les lie au sommet, et on vient mettre une butte de terre sur 20 cm environ. Et puis quand il va faire froid, on va mettre de la paille au-dessus pour les protéger. Et dès qu'il fait bon, on enlève la paille. Et dès qu'il fait froid, on met la paille. L'artichaut a besoin d'être aéré aussi de temps en temps. Donc au cours de l'hiver. Hein. On va terminer la récolte des haricots secs, par exemple. On peut buter également les poireaux. On peut diviser les pieds de menthe, ciboulette et tout ça. Et puis, octobre, c'est le début des plantations. Donc on peut commencer à mettre toutes les arbustes, les arbres et tout ça à racines nues. Et ça, on peut le faire jusqu'en mars, à racines nues jusqu'en mars. Hein. Donc si vous avez des parterres à aménager, des plantes à planter, enfin des arbustes à planter ou des arbres, même des arbres fruitiers, tout ça, ça va être bientôt le moment de le faire.
Tout à fait, d'accord. Et puis c'est le moment du raisin, Bertrand, et petite parenthèse, hein, il est important de l'acheter bio, surtout lorsqu'on profite, comme certains, pour faire une cure, n'est-ce pas ?
Oui, alors effectivement, c'est le moment de la cure de raisin, parce que le raisin, il y en a plein partout. Hein. Alors la cure de raisin, ça consiste à ne manger que du raisin et uniquement du raisin pendant plusieurs jours. Alors certains font ça pendant 15 jours, parfois plus, hein. Et donc il faut évidemment se procurer du raisin bio et uniquement du raisin bio. Hein. Le raisin non bio est souvent un cocktail de pesticides. Alors le but de la cure de raisin, c'est de nous désintoxiquer et surtout pas nous empoisonner.
Bien sûr, bien sûr. Et puis alors justement, cela me permet de faire la transition avec ce qui suit et cette question qui sera posée lors d'une conférence qui se déroulera à Béthune le 11 octobre. Et si on arrêtait de nous empoisonner, si on arrêtait de s'empoisonner. Alors Bertrand Drinel, merci. On peut retrouver sur le blog de votre association des paysages, des jardins et des hommes de très jolies photos de la fête de la tomate. Et il faut savoir que PJH, c'est de nombreuses activités, mais c'est aussi différents ateliers dont peuvent profiter les adhérents, comme par exemple cet atelier d'art floral. Et je crois qu'il reste de la place pour les prochains cours du dernier trimestre 2018.
Oui, effectivement. Donc je vous invite à découvrir notre association en parcourant notre blog. Hein. Il suffit de taper des paysages, des jardins et des hommes dans un moteur de recherche pour y accéder. Alors nos nombreuses activités reprennent, effectivement. Donc l'art floral, on reprend ici fin octobre. Donc il reste encore des places disponibles pour le trimestre qui arrive. On fait également une formation apiculture qui redémarre également en octobre. Et cette année, on met en place une formation jardinage adulte qui démarre en novembre, partie théorie en novembre et puis après la partie pratique au printemps. Et là, il y a déjà beaucoup d'inscrits. Donc, après, pour pouvoir profiter de toutes ces formations, il faut bien sûr être adhérent à notre association PJH, hein, qui compte aujourd'hui quand même plus de 760 adhérents.
Tout à fait.
On est assez satisfait.
Un très beau chiffre. Nombre, ouais. On va dire. Ouais. Merci Bertrand et très très bonne semaine à vous.
Merci beaucoup, merci. Très bonne semaine.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux, octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline.
Francis Cabrel. Et alors, je vous parlais de noter sur votre calendrier, eh bien, tout à l'heure, le marché du mieux vivre. Et on note aussi en face du 11 octobre, cette conférence qui se tiendra à la salle Olof Palme le jeudi 11 octobre. Nous avons bien conscience, c'est vrai que maintenant que l'alimentation joue un rôle primordial sur la santé, sur la nôtre et celle de nos enfants, ce qui apparemment ne perturbe pas les industriels qui continuent à vouloir mettre dans nos assiettes des produits de plus en plus toxiques avec des conséquences inquiétantes, obésité, diabète, allergies et cancer. Donc on en parle. Robert Trouvillier, bonjour.
Bonjour.
Alors, une grande majorité d'entre nous semble accepter cet état de choses comme une fatalité à laquelle on ne peut rien. Or, il faut arrêter de se voiler la face et il faut agir. Or, pour agir, bien sûr, il ne faut pas ignorer les choses, il faut être informé. Et c'est le but de cette conférence qui sera donnée le jeudi 11 octobre à la salle Olof Palme à la Rotonde à Béthune. C'est à 18h30. Une conférence, Robert, mais peut-être plus une table ronde car il y aura plusieurs participants.
Oui, il y a beaucoup de participants. Il y a le docteur Judith Louillot, membre des générations futures. Les médecins s'investissent maintenant quand même dans cette chose. Le docteur Stéphane Delmotte, urgentiste et agriculteur bio. Antoine Jean, porte-parole de la Confédération paysanne, qui est pour l'agriculture en général bio. Pierre Domageux, agriculteur à Losangoël, et le maire de l'Espèce, et le cofondateur des Anges Garda. Donc, on a tout un panel de personnes qui va de la sur la santé, sur l'agriculture nouvelle, moderne, qui est l'agriculture bio, et des élus qui ont fait un effort pour améliorer l'environnement de leur population. Donc c'est vraiment une table ronde où on aura quand même beaucoup de points de vue et des solutions pour nous dépatouiller de toute cette... de tous ces poisons qui nous entourent et que les industriels ne font que programmer. Donc c'est très intéressant pour tout le monde.
Donc, avec cette question qui dérange pour thème de cette rencontre, et si on arrêtait de s'empoisonner, en quelque sorte, Robert, cela veut dire que nous pourrions avoir en ligne d'horizon un avenir un peu plus sympathique que celui vers lequel on va, je devrais dire vers lequel nous conduisent, justement, comme vous le disiez, ces industriels devenus bien plus puissants que les États eux-mêmes. Il nous faut donc faire de la résistance et il est nécessaire de nous mobiliser tous, personnel de santé, agriculteurs, politiques et bien sûr consommateurs.
Il est évident qu'il faut faire de la résistance. Et de notre côté, au niveau consommateur, c'est évidemment aller vers le bio qui élimine beaucoup de produits nocifs à notre santé, dont les pesticides. Et ça, c'est une chose. Je pense que finalement, en voyant la situation, il n'y a guère que les consommateurs et le personnel de santé qui peuvent faire changer le fusil d'épaule aux gros agriculteurs et aux politiques.
Tout
Donc
à fait.
C'est une consommation qu'il faut raisonner, même si ça nous coûte un peu plus cher, et en même temps, on élimine un certain nombre de chômeurs, puisque l'agriculture bio demande un peu plus de main-d'œuvre que l'agriculture traditionnelle, où on passe avec une rampe, et puis on asperge toute la récolte avec des cochonneries qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'eau potable de toute façon.
Tout à fait. Alors, justement, Robert, en parlant de santé, Robert Trouvillier, vous qui êtes un scientifique, vous avez dû entendre parler de ce livre présenté d'ailleurs chez Michel Drucker le dimanche dernier, ouvrage écrit par le docteur Laurent Alexandre, au titre très évocateur, La mort de la mort, et dans lequel il explique que la génomique et les thérapies géniques, les cellules souches, la nanomédecine, etc., etc., font que l'espérance de vie doublera au minimum au cours de ce 21e siècle, c'est-à-dire que on pourrait vivre au moins jusque 150 ans, ce qui serait le minimum. Or, pour la première fois, l'espérance de vie commence à décroître. Les décès sont en hausse et les naissances en baisse. Et rien qu'en Europe, d'ailleurs, 100 000 enfants meurent chaque année de maladies causées par l'environnement. Et c'est vrai qu'il y a une véritable explosion des pathologies, justement, à cause de tous ces produits industriels. Et donc là, c'est un petit peu contradictoire.
Ouais, la première des choses, quand on entend parler de la que le cancer, on va faire mourir, entre guillemets, le cancer, etc. Il faudrait d'abord supprimer tous les produits cancérigènes. Et effectivement, les endocrinologues, comme Charles Sultan de Montpellier, eh bien, a vu l'exposition de pesticides avoir des effets sur l'appareil urogénital de l'enfant, les testicules, les fermetures de l'urètre. Alors, on va avoir une augmentation de l'espérance de vie, mais avec quoi? Avec des tuyaux dans le nez, des piqûres tous les jours, des médicaments. Moi, je connais des gens maintenant qui prennent 13 pilules par jour, qu'ils en ont marre de prendre des pilules, etc. Donc, c'est pas une solution de dire la médecine va pallier à tout. Ça va être triste, ça va être dur.
De toute façon, il est bien certain que dans ce domaine-là, eh bien, il faut d'abord, je pense, éliminer les causes et là, on est en train de soigner un petit peu les conséquences.
Bah oui, c'est les mêmes industries qui fabriquent les produits phytosanitaires et les médicaments.
Bien sûr, voilà.
Donc, d'un côté, on nous rend malade, et de l'autre côté, on achète les médicaments. Donc, voilà, il y a que des bénéfices.
Bien sûr. Et d'ailleurs, je recommande à tous ceux qui ont envie de lire sur ce sujet, je recommande cet excellent ouvrage de Erwan Manteour qui s'appelle « Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants ?» Parce que là aussi, les générations futures vont être confrontées à quelque chose d'absolument terrible.
Oui, c'est certain. On voit déjà l'hyperactivité des enfants à l'heure actuelle. Bah, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'ils ont des produits, même dans le ventre de leur mère, finalement. Mmh. Mmh. Déjà, ils ont déjà des produits qui sont toxiques. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on avale dans notre vie, comme phytosanitaire, etc., se concentre dans les graisses humaines. Or, quand une femme est en gestation, sa graisse, elle l'utilise pour fabriquer, entre guillemets, ses enfants, et tous les produits, à ce moment-là, se remettent à circuler dans le corps. L'exemple, c'est le plomb, par exemple, et d'autres produits qui se fixent dans l'organisme et qui se concentrent et qui sont libérés au moment de la fabrication de l'enfant.
Tout voilà. À fait.
Oui.
Donc, des solutions existent et elles seront données ce jeudi 11 octobre à la salle Hall of Palmer. On précise que l'entrée est gratuite, hein, Robert?
Oui, l'entrée est gratuite et promoteur de cette conférence ou de cette table ronde espère bien avoir du monde pour remuer les personnes. D'ailleurs, je dois dire que nous, on avait fait des conférences en tant que Béthune Nature et Nord Nature Environnement. On avait fait une conférence sur les perturbateurs endocriniens qui avait fait que la salle Foyer François Albert, elle était complètement débordé de monde, on dépassait les limites de la sécurité, etc. Et c'était trois médecins qui étaient venus parler de justement des perturbateurs endocriniens et de tout ce qu'il y avait comme produits toxiques dans notre alimentation, dont les phtalates, etc., dans les plastiques, par exemple.
Tout à fait.
C'est extraordinaire, ces choses-là. Donc, on espère avoir le plus de monde possible dans cette conférence et cette table ronde.
Donc l'entrée gratuite et cette soirée commencera à 18h30 et elle s'adresse, comme vous venez de le dire, à toutes celles et à tous ceux qui ont envie d'être responsables en matière d'alimentation, de santé et bien sûr d'environnement. Alors je disais que des solutions existent, donc on vous retrouvera la semaine prochaine dans cette émission pour que vous nous parliez un petit peu de ces différentes solutions.
Bah oui, j'espère y être encore parce que j'ai 84 ans et je ne prends aucun médicament. J'ai été quasiment élevé avec des aliments bio depuis que je connais les gens, depuis ma naissance quasiment, donc j'espère que je serai encore là.
Mais aucun problème, Robert, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Robert Trouvillier, je rappelle que vous êtes membre de Nord Nature Environnement.
D'accord.
Ensemble pour la nature, et on pourrait ajouter le naturel, n'est-ce pas Robert? Merci à vous, et à lundi prochain.
Au revoir. Bon courage.
Cette semaine avec Jean-Louis Bertrand et avec Robert, et comme le chante Richard Gottener, c'est bio la vie. Et bien j'espère qu'elle sera belle pour vous et je vous souhaite une très très bonne semaine. Surtout portez-vous bien, et pour ceux qui le veulent, tout de suite après la pub, nous avons rendez-vous ensemble pour écouter et entendre de la bonne musique avec Kaléidoscope. À tout de suite.